what comes to mind.
What do you want?
We have to make choices.
You have to choose.
Which one is the right one? What do you want?
It's not that simple.
What do you want?
Make your choice.
Bienvenue sur Le Choix de Marie, le podcast ciné qui vous donne tout simplement des idées de films à regarder. Sans spoiler ni prétention, je partage chaque semaine avec vous les films que j'ai vus pour faciliter votre dilemme du « on regarde quoi ?»
Hello à tous, c'est mon jour de congé aujourd'hui, j'enchaîne vraiment les journées de tournage en ce moment, donc j'ai pas une très bonne voix, j'espère que vous êtes aussi honorés que j'enregistre cet épisode malgré le peu de temps libre que j'ai. En vrai, j'ai été assez assidue cette semaine à préparer vraiment mes chroniques et faire mes recherches juste après visionnage. Donc j'avais quasiment que l'enregistrement et le montage à faire aujourd'hui. Et malgré le taf et le déménagement, c'était pas du tout une semaine ridicule parce qu'on va parler de 4 films aujourd'hui. Un drame de science-fiction, La Bête. Une comédie dramatique, La Chimère. Un documentaire, Opus. Et un drame, Goodbye Julia. La semaine commence donc dimanche dernier au ciné devant La Bête, le dernier film de Bertrand Bonello qui est sorti en février au cinéma en France. On a droit à une petite sortie limitée ici et je suis donc allée le voir. Je suis pas la plus fine connaisseuse de ce réal, mais de ce que j'ai vu, j'aime beaucoup. L'Apollonide, Saint-Laurent ou encore Nocturama, j'ai vraiment beaucoup aimé ses films dans ce que j'ai vu parmi sa filmographie précédente. Dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenues une menace. Pour s'en débarrasser, Gabrielle doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Elle y retrouve Louis, son grand amour, mais une peur l'envahit, le pressentiment qu'une catastrophe se prépare. La première chose que je peux vous dire, c'est que ce film m'a marqué. Et j'ai trouvé en fait qu'il était vraiment terrifiant. Et j'ai continué à y penser pendant plusieurs jours après le visionnage. Durant le film, on assiste en fait à des voyages temporels qui sont commandés par une intelligence artificielle dans un monde dystopique né après des conflits qui restent mystérieux jusqu'à la fin du film. Et c'est très déroutant parce que on comprend pas toujours tout ce qui se passe pendant le film, tout en restant intriguant et pas juste en nous mettant dans un brouillard. Et finalement, sur la fin, tout prend sens et on se prend vraiment un coup de massue comme rarement. Après, est-ce que 2h26 de film était nécessaire pour développer tout ça ? Pas du tout, non. Le film est beaucoup trop long. Il y a des moments qui sont vraiment cruellement longs et je pense sincèrement qu'il aurait pu faire un film avec une heure de moins, de juste une heure et demie. Et pourtant, comme souvent avec Bonello, on a une image qui est très belle et peut-être en fait que c'est ça le problème. On a un peu l'impression de feuilleter un magazine de mode avec des images qui sont sublimes, mais plus par ego que pour vraiment servir l'histoire. Après, peut-être que justement le postulat du film sur l'insensibilité du monde a poussé le réal à vouloir nous immerger dans son histoire et à faire quelque chose vraiment de long qui englobe tout. Voilà, pas trop non plus parce que je vous avoue que le générique de fin, il est à regarder chez soi grâce à un QR code. J'arrive pas trop à savoir le pourquoi ce film est aussi long. En revanche, niveau cast, c'est très, très, très solide. J'adore Léa Seydoux en français, vraiment. Je la trouve magnétique et hypnotisante, pardon. Ça me saoule vraiment de réaliser que je la vois surtout dans des trucs américains ces derniers temps. Ici, elle est de tous les plans, elle est superbe, pleine d'intensité. Et on a également une prestation impressionnante de George MacKay qui a remplacé le regretté Gaspard Ulliel, initialement prévu pour le projet. Il est incroyable aussi dans ce film et c'est vraiment, je trouve, grâce à eux deux qu'on tolère que ce film soit beaucoup trop long parce qu'ils sont excellents et ça fait juste plaisir de les voir. Assurément un film intéressant qui fait bien flipper sur ce que l'avenir va peut-être nous réserver. Il est loin d'être parfait, notamment, comme je le disais, à cause des longueurs, mais La Bête reste vraiment un parcours initiatique fascinant et intriguant. Et cette scène de fin est remarquable. Elle risque vraiment de me hanter pendant un moment. Le film est trop récent pour le moment pour être dispo en VOD, vu que la sortie en salle date d'il y a à peine 2 mois et demi. Faudra donc attendre encore un peu pour vous rattraper sur La Bête de Bertrand Bonello. Deuxième film de la semaine, toujours en salle pour aller voir un film que j'attendais depuis bien bien longtemps, La Chimère, le dernier film d'Alice Rockwerker, une habituée de Cannes à qui on doit Les Pupilles, Heureux comme Lazaro, L'Ami prodigieuse ou encore Les Merveilles. Je suis pas hyper familière avec son travail, mais la bande-annonce de celui-là me faisait vraiment bien rêver. Et puis, il a été présenté en mai dernier en compétition au Festival de Cannes, ce qui est toujours plutôt bon signe. Chacun poursuit sa chimère sans jamais parvenir à la saisir. Pour certains, c'est un rêve d'argent facile, pour d'autres, la quête d'un amour passé. De retour dans sa petite ville au bord de la mer Tyrrhénéenne, Arthur retrouve sa bande de tombaroli, des pilleurs de tombes étrusques et de merveilles archéologiques. Il a un don qu'il met au service de ses amis brigands, il ressent le vide de la terre dans laquelle se trouvent peut-être les vestiges d'un monde passé. Le même vide qu'a laissé en lui le souvenir de son amour perdu, Beniamina. La réalisatrice dresse ici le portrait d'une Italie marginale, à travers cette bande de pilleurs de tombes, alors que ses copains, eux, pensent surtout à l'argent, Arthur, lui, réfléchit un peu plus à la signification de ses actes, et il est donc en recherche de quelque chose de plus profond. Grâce à l'errance de cet homme qui traîne son spleen partout avec lui, le film illustre une existence fantomatique, un voyage un peu entre les vivants et les morts, entre le passé et un avenir incertain que notre héros n'arrive pas à accepter. L'impartialité de la réale, c'est ce qui m'a le plus marqué, parce qu'on sent en fait qu'elle voue une tendresse évidente et infinie à tous ses personnages, sans jugement puisque personne n'est parfait dans ce récit. Il y a plein de tons dans ce film, c'est à la fois onirique, poétique, métaphorique et nostalgique. J'ai beaucoup aimé le mélange aussi entre réalisme magique et le côté plus concret de l'histoire avec ses découvertes finalement peu nombreuses. C'est un film dans lequel il se passe pas grand-chose, mais qui sont surtout là pour toute la symbolique qui va avec. C'est très expérimental, pas vraiment ancré dans la réalité, ce qui forcément n'est pas le plus ma cam par rapport à d'autres choses. Mais je me suis quand même volontiers laissé embarquer dedans malgré quelques longueurs qu'il faut admettre. C'est par ailleurs joli, bien filmé sur une belle pellicule. Une vraie parenthèse enchantée ce film. Je pense que c'est pas pour tout le monde pour autant. Voilà, c'est un film qui peut rebuter les adeptes de rationalité. Mais en tout cas, c'est du vrai cinéma d'auteur risqué et de qualité nourri par une réflexion sur nos mœurs. Excellent cast, tous autant qu'ils sont. C'est le Britannique Josh O'Connor en lead qui est terriblement efficace dans le rôle principal. On le retrouve également en ce moment dans Challenger. Il a peu de répliques, mais il est tellement bon par sa gestuelle non-verbale. Carol Duarte, qui joue Italia, est également très très charmante, sûrement le personnage que j'ai le plus aimé. Et toute la bande de pilleurs, leadée par l'excellent Vincenzo Nemolato, est également très réaliste. La Chimère, c'est donc un film original avec de belles interprétations, un brin de poésie et de magie, mais aussi quelques longueurs et un poil de confusion pour les cinéphiles les plus cartésiens parmi vous. Il est sorti en décembre 2023 en salle et c'est donc maintenant en VOD à l'achat et à la location sur Apple TV, Rakuten, Universiné et Amazon que vous pourrez le voir. C'était La Chimère. Je suis rentrée en tournage après cela, mais j'ai quand même réussi à caler deux films supplémentaires. Le premier, c'était au cinéma, une projection pour le festival pour lequel je bosse. On a réussi à se procurer le documentaire musical Ryuichi Sakamoto Opus, réalisé par Neo Serra, nul autre que le fils du compositeur. Il a fait son apparition pour la première fois au festival de Venise en septembre dernier et il a en ce moment une sortie un peu limitée dans quelques pays. Il faut dire que c'est pas un film commun. Le 28 mars 2023, le légendaire compositeur Ryuichi Sakamoto est décédé après son combat contre le cancer. Dans les années qui ont précédé sa mort, il pouvait plus se produire en direct. Les concerts individuels, sans parler de ses tournées mondiales tentaculaires, étaient beaucoup trop éprouvantes. Et malgré tout cela, fin 2022, Sakamoto a rassemblé toute son équipe et toute son énergie pour quitter le monde avec une dernière performance, un film concert mettant en vedette seulement lui et son piano. C'est donc lui qui a organisé ce film et présente ainsi dans l'ordre qu'il a choisi lui 1h43 de musique parmi son répertoire, 20 pièces au total. On raconte ainsi à travers ce film d'une certaine façon sans parole sa vie à travers sa musique. La sélection couvre toute sa carrière, de sa période pop star Yellow Magic Orchestra à ses magnifiques musiques de films de Bertolucci, en passant par la musique de son dernier album méditatif 12. C'est intimement filmé dans un espace qu'il connaissait bien, entouré de ses collaborateurs les plus fiables. Il nous dévoile ainsi son âme à travers sa musique, sachant que c'est peut-être la dernière fois qu'il va pouvoir le faire. Un film qui est donc la célébration de la vie d'un artiste au sens le plus pur qu'il existe, le chant du cygne définitif du maestro bien-aimé. J'ai été hyper émue et c'était le cas vraiment de toute la salle, surtout à la fin, il finit avec « Merry Christmas, Mr. Lawrence ». Ça a été vraiment dur pour moi de pas pleurer. Je devais monter sur scène juste après la fin du film pour modérer une discussion avec ses anciens collaborateurs. Je regrette également une petite chose, le fait qu'il n'y ait pas eu plus de moments, enfin il n'y a pas du tout en fait de moments de vie qui entrecoupent les moments musicaux. C'est sûrement moins poétique et voilà, il voulait vraiment faire une bulle, une parenthèse enchantée. Mais voilà, je connais assez peu cet homme finalement et j'aurais aimé en savoir un peu plus. Ça reste un film qui est absolument hypnotique et envoûtant, qui m'a transporté bien bien loin. Il est à voir et à écouter surtout si vous êtes amateur de l'œuvre de Ryuichi Sakamoto, mais malheureusement je vois pas de date de sortie prévue pour le moment, pas sur Allociné et Sens Critique en tout cas. C'était Ryuichi Sakamoto, Opus. On termine à la maison pour le dernier film sur deux soirs, parce que je m'endormais, je me suis endormie au milieu à cause de grosses journées de tournage. J'ai réussi à récupérer un lien pour regarder l'un des gagnants de Cannes 2023, Goodbye Julia. Il s'agit en effet du premier long métrage de Mohamed Kardofani. C'est son premier film à lui et c'est également le premier film soudanais jamais présenté dans la sélection Un certain regard à Cannes. Il a remporté du coup, comme je le disais l'an dernier, un prix, le prix de la liberté. Il a également été sélectionné pour concourir à l'Oscar du meilleur film international pour le Soudan lors de la 96e cérémonie cette année. Le film se déroule à Khartoum au cours des dernières années du Soudan en tant que pays uni peu avant la séparation du Sud en 2011. Mona, une ancienne chanteuse populaire de la classe moyenne supérieure du Nord, vit avec son mari Akram et elle cherche à atténuer le sentiment de culpabilité pour avoir causé la mort d'un homme du Sud. Elle emploie donc Julia, sa veuve, sans méfiance comme servante. Superbe claque, je m'attendais à un film bien, mais pas du tout aussi riche à travers l'histoire et surtout l'amitié de ces deux femmes. Le réalisateur illustre les relations compliquées et surtout les différences entre les communautés du Nord et du Sud du Soudan. C'est tellement plus politique, poétique et féministe que 90% des films woke qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est fait avec une finesse cette fois-ci éblouissante. Il y a tellement d'angles, de sujets, de réflexions et de thèmes. C'est vraiment bluffant, encore plus quand on sait que c'est un premier film. Le pays est en toile de fond et très très présent dans ce film, presque autant que les sujets principaux, à savoir les deux femmes. Et celle-ci offre une réflexion sur la culpabilité et l'émancipation féminine de façon sublime. Je vais pas dire que l'histoire de base est d'une originalité renversante, mais il a réussi justement à prendre un scénario simple et à le rendre bien plus complexe. La mise en scène et la photographie sont à couper le souffle et mettent parfaitement en valeur le duo d'actrices qui sont brillantes et pourtant elles sont inconnues. Siran Riak joue Julia et Ayman Youssef joue Mona. Toutes les deux à couper le souffle, bouleversante de justesse, et le cast masculin bien plus secondaire, autant parce que les personnages sont en retrait que la performance des acteurs qui n'est pas vraiment mise en lumière, j'ai trouvé. Voilà, une très jolie claque inattendue devant Goodbye Julia. Ça reste un petit film indépendant, donc je ne sais pas dans quelle mesure ça plaira au grand public, mais jugez par vous-même et surtout regardez les notes qu'il a, c'est vraiment dithyrambique. À vous de voir du coup, mais je peux vous assurer que c'est vraiment un très beau film, très bien rythmé. Je me suis pas du tout ennuyée, j'étais juste fatiguée en rentrant de tournage. Goodbye Julia est sorti en novembre au ciné en salle en France et c'est donc à présent sur Orange, Universciné ou Amazon que vous le trouverez en VOD, à l'achat ou à la location. Voilà donc pour cet épisode 168, du français, de l'italien, du japonais et du soudanais. Pas un seul film américain cette semaine, c'est suffisamment rare dans ce podcast pour être remarqué. Et surtout, c'était quand même dans l'ensemble une semaine durant laquelle j'ai vraiment vu des très bons films et des films uniques. Une belle bouffée d'air frais au milieu d'une semaine chargée en boulot et en carton avec mon déménagement. J'espère que chacun parmi vous saura y trouver son bonheur. Je peux pas vous promettre que ce sera autant rempli la semaine prochaine parce que vraiment... Je passe en tournage de nuit et c'est vraiment ma semaine de déménagement. On verra dimanche prochain ce que j'aurai le temps de regarder. Merci à tous pour votre écoute d'ici là et passez une très bonne semaine.